Je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle ENSTA Bretagne et je travaille dans un laboratoire de recherche où je travaille plus spécifiquement en acoustique passive sous-marine. J'utilise le son pour étudier les populations de mammifères marins.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'acoustique passive ?
Donc l'acoustique passive, c'est en opposition avec l'acoustique active, c'est le fait d'immerger en fait un hydrophone, enfin micro sous-marin, donc un hydrophone sous l'eau, et d'enregistrer de façon passive tout le paysage sonore sous-marin. En opposition à l'acoustique active, où là on va émettre un signal dans l'eau et puis on va recevoir une réponse, un écho, quelque chose comme ça.
Et donc tu nous parlais de paysage sonore, qu'on observe, du coup, qu'est-ce qu'on écoute dans ces paysages sonores?
Alors, quand on met un hydrophone à l'eau, on va entendre trois grandes composantes du paysage sonore sous-marin. La première composante, ça va être la composante plutôt d'origine biologique, donc naturelle biologique. Ça va être tout ce qui est les sifflements des dauphins, les clics de cachalots, les chants des baleines, mais aussi les petits bruits que peut faire la crevette ou la coquille Saint-Jacques ou les signaux sonores émis par les poissons. Ça, c'est ce qu'on appelle la biophonie. Ensuite, on va aussi enregistrer tout ce qui est naturel, mais non biologique. Ça veut dire tout ce qui va être tremblement de terre, crissement de la glace, des icebergs. Ça va être tout ce qui va être la pluie qui tombe sur l'océan, les vagues, les déferlements des vagues, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la géophonie. Donc, c'est des sons plutôt d'origine terrestre. Et la troisième composante qu'on va entendre, ça va être les bruits d'origine non naturelle, les bruits anthropiques, donc les bruits produits par l'homme et qui se propagent dans le milieu marin. Donc ça va être le trafic maritime, ça va être la prospection pétrolière, ça peut être des explosions, diverses choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc c'est les trois composantes du paysage sonore sous-marin.
Quel impact a l'anthropophonie du coup sur l'environnement marin justement ?
Alors, on pense que l'anthropophonie, en tout cas, a des effets de plus en plus importants sur la faune marine. Alors, pas que sur les cétacés. Hein. On parle beaucoup des cétacés parce que c'est ce qui est plus gros, ce qui est le plus étudié aussi, et puis sûrement le plus médiatisé. Mais ça a aussi des effets sur les coquilles Saint-Jacques, les homards, des choses comme ça. Et donc, on mesure en tout cas des effets. Alors, les effets vont être différents. Ça peut être des effets de masquage, des animaux qui ne se comprennent plus, en tout cas pour les cétacés, ça va être des changements de comportement, différentes choses comme ça.
Qu'est-ce que vous avez observé d'autre pendant vos recherches ?
Alors moi, j'ai surtout travaillé sur des populations, essayer de savoir dans l'océan Indien quelles populations de grandes baleines étaient présentes, surtout depuis l'arrêt de la chasse. Parce qu'en fait, on a très peu de données, on n'avait pas, en tout cas dans le début des années 2000, au début des années 2000, ouais. En fait, c'est ça, ouais. Au début des années 2000, on avait très peu d'informations sur les populations de grandes baleines. Donc, dans l'océan Indien et en Antarctique, elles avaient été largement chassées au cours du siècle passé. Pendant quelques décennies, la population elle a quasiment disparu. Et il y avait très peu d'études qui ont été faites là-dessus. Et donc, on a décidé de mettre des hydrophones à l'eau pour pouvoir écouter si on avait des baleines et puis quelles espèces de baleines étaient présentes, par avoir en tout cas collecté des données contemporaines de distribution et de présence de baleines pour affiner des schémas migratoires ou tout simplement savoir où en étaient les populations. Donc, avec le son, on n'arrive pas à avoir un nombre de baleines. Hein. On n'en est pas là. Mais par contre, avec une quantité de son, un taux de rencontre acoustique, s'il évolue dans le temps et s'il augmente dans le temps, on aurait envie de dire c'est que les populations en tout cas sont en bonne santé, ça va mieux ou en tout cas ça croît. Si du jour au lendemain je capte plus rien sur mes hydrophones, je pense qu'il faudra commencer à s'inquiéter aussi.
Et comment on fait pour interpréter les sons récoltés ?
Alors, ça dépend en fait ce qu'on cherche. Les outils qu'on utilise, en tout cas quand on connaît assez bien les signaux, on va utiliser des techniques de traitement de signal pour pouvoir les repérer dans les enregistrements. On va pas écouter des années d'enregistrement comme ça. On va essayer d'utiliser vraiment des outils informatiques pour les repérer dans les enregistrements. Et puis parfois, il faut faire de repérer manuellement et détecter manuellement les signaux. Donc après, on va avoir une quantité de signaux par unité de temps. Donc ça peut être par minute, par heure, par jour, par mois, par année. Et puis selon où on a enregistré des signaux, à quel moment de l'année, on va pouvoir raconter une histoire sur la présence des baleines.
Je voudrais avoir votre avis sur l'environnement sonore sous-marin.
Alors l'environnement sonore sous-marin, il s'est dégradé. Alors il s'est dégradé, bon déjà on arrive mieux à le mesurer qu'avant. On va dire que depuis une cinquantaine d'années, on a une idée un peu plus précise de l'environnement sonore sous-marin. On voit qu'il y a une grosse contribution de l'homme. C'est pour ça que je dis qu'il s'est dégradé, en tout cas parce qu'il y a une introduction de bruit lié aux activités humaines dans le milieu marin. Après, ça dépend des bandes de fréquences sur lesquelles qu'on veut étudier. Et puis, ça dépend aussi de l'endroit où on se situe. Par exemple, dans des bandes de fréquence assez basses dans l'océan Indien, le bruit ambiant général a diminué les dernières années. Alors que dans l'hémisphère nord, en tout cas jusque dans les années 2008, il avait tendance à augmenter le bruit ambiant. Parce que le trafic maritime augmentait, parce que les bateaux étaient de plus en plus gros, etc. etc. Après, c'est vraiment le bruit... La pollution sonore, le bruit ambiant et tout ça, c'est vraiment des choses qui sont au cœur d'une actualité, en tout cas en recherche. Enfin, c'est une préoccupation, en tout cas, de la France et de nombreux pays, d'essayer de réduire le bruit anthropique et puis de préserver les habitats dans lesquels évoluent les mammifères marins en préservant l'environnement sonore.
Il y a déjà des mesures qui sont prises en ce moment
Alors, il y a différentes mesures qui sont prises. Ça dépend des pays. Alors, je ne suis pas la spécialiste là-dessus. Des exemples comme ça que je peux donner, ce serait par exemple pour protéger la population résidente de Colombie-Britannique d'orques. Enfin, d'orques. Pour préserver la population d'orques en Colombie-Britannique. Donc, c'est une population résidente qui vit au sud de l'île de Vancouver, enfin entre le sud de l'île de Vancouver et le continent. Et cette population d'orques, elle est très... Enfin, elle est vraiment menacée par rapport... une des causes de sa menace, une des pressions qu'il y a sur cette population, c'est la pollution sonore. Et du coup, il y a eu des... Ils ont, en tout cas, les organismes au niveau du portuaire et tout ça, ont monté des mesures, en tout cas, pour encourager les bateaux qui vont passer à proximité et qui vont à réduire en tout cas leur vitesse et à diminuer leur bruit ambiant pour protéger l'habitat de ces cétacés. Donc il y a différentes choses comme ça, il y a différentes actions qui sont faites. Il y a des travaux aussi qui sont faits pour faire des navires un peu moins bruyants. Il y a beaucoup de mesures aussi quand l'homme fait des activités très bruyantes comme de la prospection pétrolière, donc ils vont envoyer des signaux de très basse fréquence, de très forte intensité, qui vont se propager très très loin. Et donc maintenant il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures pour être sûr qu'on n'a pas de mammifères marins dans la zone. Donc ça dépend des pays, mais il y a des choses qui sont faites comme ça. Et puis après, on travaille aussi beaucoup sur des choses pour réduire le son à la source.
Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de votre collaboration avec Aline Pénito, donc sur Oublier Moby Dick.
Eh ben oui, alors Aline, elle m'avait contactée par l'intermédiaire d'un collègue à moi qui s'appelle Olivier Adam. Et donc j'avais répondu... avec joie sur ce projet. J'aimais beaucoup l'idée qu'elle interviewe des tas de gens différents, passionnés, avec la même passion en tout cas, et qu'il y ait des points de vue différents, les points de vue scientifiques, mais aussi il y a d'autres points de vue. Donc j'avais répondu avec joie pour ce projet-là. Puis j'ai trouvé que l'émission était super intéressante. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, elle a rencontré des tas de personnes. Enfin, ça, voilà. On voit vraiment que c'est passionné, passionnant.